RFI, grand reportage.
Il n'y a pas de doute que c'est effectivement une base militaire, agréée par le gouvernement mauricien, même si notre Premier ministre continue à dire que c'est uniquement un développement des infrastructures au bénéfice des habitants d'Agalega. Mais on ne construit pas une piste de 3 km pour recevoir des petits avions inter-îles.
Grand reportage vous emmène aujourd'hui dans l'océan Indien, à Agalega, une lointaine et petite dépendance mauricienne de 300 habitants. Sur place, de gros travaux et beaucoup de questions. Tout laisse indiquer que l'Inde y installe une base militaire. Des images satellites attestent de l'ampleur des travaux, même si Maurice nie avoir conclu un accord militaire avec l'Inde. Alors que la rivalité entre la Chine et l'Inde dans l'océan Indien ne cesse de se tendre, Maurice a choisi son camp. Agalega, l'empreinte militaire indienne s'accentue à Maurice. C'est un grand reportage d'Abdullah Erali.
Un vent de soupçon souffle sur Agalega depuis que les Indiens ont démarré de gigantesques constructions qui vont occuper jusqu'à un cinquième de ce paysage de rêve. Un petit bout du paradis isolé du monde, minuscule territoire qui, vu du ciel, ressemble à une petite bande corallienne. Inconnue sur la carte jusqu'à tout récemment, Agalega, la lointaine dépendance du territoire mauricien, est plus proche de Madagascar et des Seychelles que de Maurice. Dans l'île, la vie s'écoule lentement pour les 300 habitants, comme dans un autre temps, parmi les rares concessions à la modernité des téléphones portables, aux connexions limitées. À 2 jours et demi de navigation de Maurice, Agalega a perdu sa quiétude. Il est devenu un chantier immense, démesuré à l'échelle de l'île. Du jour au lendemain, sa population est devenue minoritaire. Près de 1000 ouvriers indiens s'affairent à bâtir une piste d'atterrissage et un quai en eau profonde. Des travaux officiellement pour le progrès économique de l'île et pour la surveillance maritime. C'est ce que le Premier ministre de Maurice a toujours dit en mai dernier. Pravin Jugnauth énumérait à nouveau les objectifs de l'accord signé entre New Delhi et pour lui en 2015, et ils sont les suivants.
La surveillance de notre vaste zone économique exclusive, anti-piraterie, anti-terrorisme, anti-drogue, surveillance du trafic humain, du braconnage et de la pêche illégale, promouvoir le développement économique d'Agalega, recherche, sauvetage et intervention contre la pollution marine.
Le Premier ministre lâchera aussi une petite phrase sur le financement de ce projet, une phrase qui va éveiller de nouveaux soupçons.
Monsieur le Président, concernant la deuxième partie de la question, ces projets seront entièrement financés par le gouvernement de l'Inde.
87 millions de dollars pour une piste d'atterrissage et un quai, alors que l'île manque de confort rudimentaire. Pas d'eau potable, les habitants consomment l'eau de pluie captée des gouttières, l'électricité est assurée par des générateurs au diesel, les services de santé et d'éducation sont réduits au strict nécessaire. La population s'interroge sur ces mouvements des navires et des engins de chantier. Petit à petit, les langues se délient. Franco Poulet, un natif de l'île, commence à y voir plus clair.
Pour le moment, il y a à peu près 800 à 1000.
En ce moment, ils sont 800 à 1000 ouvriers indiens. Et puis, il y a aussi les cadres. Nous avons eu des renseignements comme quoi ce sont des militaires. Ce sont eux qui supervisent les travaux. Beaucoup d'ouvriers indiens disent aux Agaléens que c'est une base militaire.
Un Agaléen, mais base militaire, ça.
Agalega comprend 2 îlots, dit l'île du Nord et l'île du Sud, qui s'étirent sur 19 km. Le lieu administratif est le village 25, qui rappelle les 25 coups de fouet qui étaient administrés autrefois aux esclaves. Jusqu'à tout récemment, chaque coin de l'île était une carte postale à l'état sauvage. Se souvient Laval Supramanian, il préside depuis Maurice l'association des amis d'Agalega.
Quand je débarque à Agalega en 2003, je voyais l'ampleur du cocotier, les noix de coco qui traînent. Les plants de coco qui repoussent, ça c'est la première chose. Et puis l'abondance des poissons, des crustacés, des homards, des horides, des poissons et tout et tout.
Les constructeurs ont eu carte blanche et ont été exemptés, entre autres, du cahier de charge environnemental. Le charme de la vie insulaire s'efface à grande vitesse, les espaces rétrécissent à vue d'œil, les habitants se demandent si un jour ou l'autre, ils ne seront pas de trop dans l'île, comme au Chagos, où les Britanniques et les Américains ont chassé d'autres Mauriciens comme eux dans les années 60 et 70 pour construire la base militaire de Diego Garcia. Pour les Agaléens, l'écriture d'un scénario mieux réfléchi a peut-être commencé. Ils se demandent pourquoi les Agaléennes ne peuvent plus donner naissance dans l'île. Dès que l'administration est au courant d'une grossesse, la femme est transférée à Maurice, officiellement faute de services adéquats dans la dépendance. Hélène vient de donner une nouvelle naissance à Maurice.
Au fait, mon père vient de Maurice pour venir promener, mon venir.
Je ne viens pas en vacances à Maurice. J'y viens quand je dois accoucher ou quand je suis malade. Je viens d'avoir un bébé. J'ai 7 enfants, dont 5 qui sont nés ici. On ne nous laisse pas accoucher là-bas.
Laisse-nous donner naissance là-bas.
À Port-Louis, les Agaléens ont trouvé quelques défenseurs. Ivor Tanian fait partie de cela. Pour lui, les Agaléens sont traités comme des citoyens de seconde zone.
Il n'y a pas l'accès à tout simplement un système éducatif du même niveau qu'à Maurice. Ils n'ont pas accès à tous les services au niveau médical. Ils doivent être envoyés à Maurice pour les accouchements, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas normal que des femmes aient à quitter leurs enfants qu'elles ont déjà pour venir à l'île Maurice pour donner naissance à leurs enfants.
Aucune autorité n'oserait s'exprimer ouvertement sur le dossier Agaléga, devenu une affaire sensible. La seule voix officielle est le Premier ministre, inaccessible à la presse sur cette affaire. À la demande d'entretien de RFI, son conseiller nous a transmis les réponses écrites de ses déclarations à l'Assemblée nationale et dément tout projet de base militaire indienne. Toutes les autorités compétentes sont muettes sur cette affaire, même les affaires étrangères depuis toujours écartées du dossier. De même, notre requête pour un entretien cette fois avec la représentante diplomatique indienne à Maurice est restée sans réponse.
Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale à Port-Louis, où le Premier ministre indien Narendra Modi prononcera un discours à l'Assemblée nationale lors d'une séance spéciale.
Narendra Modi est l'invité d'honneur des célébrations du 12 mars 2015, la fête nationale. Il est le 6e Premier ministre et président indien à s'adresser à l'Assemblée nationale depuis l'indépendance de Maurice. Dans ses ambitions de grandeur, l'Inde a adopté la doctrine baptisée SAGAR, acronyme de Security and Growth for All in the Region, la sécurité et la croissance pour tous dans la région. SAGAR est aussi un mot hindi qui signifie océan. Quand il s'était adressé aux parlementaires mauriciens en mars 2015, Modi avait trouvé une formule séduisante.
Pour l'Inde et l'île Maurice, nos destinées sont liées par les courants de l'océan Indien. Notre partenariat de sécurité a été un pilier solide de nos relations et a résisté au temps. Il repose sur une confiance mutuelle incomparable.
Et le Premier ministre indien, comme tous ses prédécesseurs, a exprimé son devoir de protection vis-à-vis de Maurice.
Nous partageons un engagement de paix et de prospérité dans l'océan Indien. L'île Maurice veut la sécurité dans ses eaux et dans la vaste zone économique exclusive. Nous serons toujours là pour vous. Nous renforcerons nos coopérations et nous ferons tout ce que nous pouvons pour renforcer vos propres capacités.
C'est lors de cette visite que l'accord d'un développement indien sur Agaléga est signé. Modi avait partagé une même vision avec les Seychelles pour un projet semblable sur l'île d'Assomption. Les Seychelles finiront par rejeter l'accord après une fuite d'informations sur les visées militaires indiennes explicites sur cette île. C'était en juin 2018. Un an plus tard, mai 2019, les grandes manœuvres vont commencer à Agaléga avec la présence croissante des Indiens et leurs engins de construction. Des constructions entourées d'un lourd secret sur leur réelle nature. Mais pour Jean-Claude de Lestrac, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, le voile est déjà levé.
Il n'y a pas de doute que c'est effectivement une base militaire agréée par le gouvernement mauricien. Même si notre Premier ministre continue à dire que c'est uniquement un développement des infrastructures au bénéfice des habitants d'Agaléga, mais on ne construit pas une piste de 3 km pour recevoir des petits avions inter-îles. C'est clair, toutes les informations sont maintenant connues, même si elles sortent au compte-gouttes. C'est une base.
Pour sa part, l'actuel secrétaire général de la COI, le professeur Velayudham Marimuthu, ancien directeur de l'Institut français de Pondichéry, appelle à comprendre le raisonnement derrière le nouveau jeu géopolitique.
L'Inde doit penser que l'océan Indien est une chasse gardée, du moins dans son périmètre. Il y a bien sûr une compétition au niveau global sur cette route de la soie, sino-américaine d'abord, des conflits sino-indiens. Là où il y a un rapport ou un instrument chinois qui s'installe, il n'est pas absurde de penser qu'il y aura un instrument, soit américain, soit indien, soit autre, en face. Cela relève juste du bon sens.
Depuis les années 2000, l'océan Indien est au centre d'un jeu d'influence entre l'Inde et la Chine. Les avancées chinoises avec son gigantesque projet de route de la soie et les facilités militaires de l'Asie jusqu'à Djibouti, baptisé le collier de perles, ont rebattu les cartes. Une part substantielle des produits pétroliers chinois passe par le canal du Mozambique que Pékin cherche à sécuriser. Cet enjeu est plus ou moins compris par tous. En revanche, le projet de nouvelle route de la soie a des résonances diverses et suscite la pleine méfiance de l'Inde, observe Jean-Claude Delestrac.
On sent monter la tension de plus en plus entre la Chine et l'Inde. La Chine tient un discours extrêmement pacifique, écoutez, nous, c'est pas tout ça, nous, on veut faire du commerce, on veut sécuriser notre activité commerciale, on veut apporter de l'aide au développement, on veut que tout le monde se développe, on n'a pas d'autres intérêts. Les Indiens n'y croient pas.
L'ancienne rivalité sino-indienne dans la zone a-t-elle franchi un nouveau palier? Le chercheur Samuel Bashfield du National Security College de l'Université d'Australie a des raisons de le croire.
On voit la Chine augmenter son déploiement dans l'océan Indien. Elle développe sa stratégie de collier de perles avec des moyens dans des pays de l'océan Indien aussi. On observe une modernisation massive du secteur militaire et je pense que l'Inde considère cela comme une menace gigantesque.
Agalega sera-t-elle une base militaire indienne au sens propre? Serait-ce tout simplement des facilités logistiques ou encore une base en devenir? Samuel Bashfield faisait des recherches sur le territoire britannique de l'océan Indien quand Agalega s'est révélé à lui. Les images satellitaires de Google Earth de février de cette année ont éveillé la curiosité des observateurs militaires et du chercheur du National Security College de l'Université d'Australie.
C'est là que nous avons pris connaissance de la dimension réelle de ce projet. Je pense que cela a même surpris de nombreux spécialistes qui ne comprenaient pas la pleine dimension des travaux en cours à Agalega. Cela ressemble vraiment à des infrastructures militaires, un grand port qui s'étire en eau profonde et une piste d'atterrissage assez longue, de 3 km. Ce sont des moyens énormes pour une si petite île.
Comme d'autres, Samuel Bashfield s'interroge sur le côté disproportionné de ces facilités sur un si petit territoire. La piste d'Agalega sera capable d'accueillir des versions militaires du Boeing 737 livrées à l'Inde par l'US Navy. Elles sont capables notamment de détecter des sous-marins et de les attaquer.
En période de paix, ces avions, qui ont des détecteurs incroyablement sophistiqués avec un système de commande, des radars et des équipements de collecte des renseignements, ces avions sont utilisés pour des missions de routine et dans l'immensité de l'océan Indien, ils ont besoin de ravitaillement de carburant. Et c'est là qu'Agalega entre en jeu pour les militaires indiens.
Tout semble indiquer qu'Agalega fera partie d'un réseau de facilités militaires que l'Inde a développé depuis les îles Andaman et Nicobar. Ces nouvelles facilités viennent en quelque sorte compléter l'extension des dispositifs militaires jusqu'au sud-ouest de l'océan Indien. Les Indiens vont pouvoir patrouiller la région et surveiller surtout le canal du Mozambique qui prend une importance croissante. Avec de telles logistiques, l'armée indienne offre aux Américains des moyens de surveillance dans cette partie de l'Indo-Pacifique. Jean-Claude Delestrac.
C'est en train de venir depuis plusieurs années, bâti sur une stratégie américaine qui dit on ne va pas tout faire nous-mêmes. On va s'appuyer sur des alliés, ce qu'ils appellent des nœuds de sécurité dans différentes régions. Et dans cette région-là de l'océan Indien, notre partenaire c'est l'Inde. Donc nous, on veut la montée en puissance de la marine indienne. Ils ont aidé l'Indien à s'équiper, ils ont financé l'armée indienne, ils ont même signé des accords pour permettre à l'Inde d'accéder au nucléaire.
Le nucléaire, une vieille question qui refait surface au sein de la société mauricienne. Il a fait débat en mai dernier à l'Assemblée nationale sur fond de l'affaire Agalega. Le chef du gouvernement en a profité pour nier encore une fois la dimension militaire des travaux en cours dans l'île. Pravin Jugnauth.
Let me reiterate most emphatically.
Permettez-moi de le réaffirmer de la manière la plus emphatique et claire, il n'y a pas d'accord entre Maurice et l'Inde pour installer une base militaire à Agalega.
Pour le leader de l'opposition, la question d'une base militaire ne fait plus mystère. Xavier Luc Duval veut des garanties sur le risque nucléaire.
I like to have a J'aimerais obtenir une promesse ferme du Premier ministre. Nous savons maintenant que des avions militaires vont atterrir à Agalega et que le port accueillera probablement des navires militaires. J'aimerais avoir la garantie qu'il n'autorisera jamais les armes nucléaires.
La réponse du Premier ministre.
Mais permettez-moi de le réaffirmer concernant les avions et les navires militaires avec des armes. Cela a toujours été le cas pour un certain nombre de pays qui ont demandé l'autorisation de mouiller dans notre port ou d'atterrir à Maurice. Les autorisations ont été accordées, je connais de très nombreux cas. Donc je ne vois pas pourquoi, comme nous le faisons pour Maurice, cela ne s'appliquerait pas à Agalega.
L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Delestrac, s'interroge sur cette posture du Premier ministre, car en matière de sécurité, l'Inde est bien plus qu'un partenaire.
Mais qui donnera cette autorisation? Le chef des renseignements à Maurice est un Indien, dont les services ont été prêtés par le gouvernement indien. S'il y a demain une demande d'autorisation de l'armée indienne pour atterrir à Agalega, c'est lui, très probablement, qui sera consulté et c'est lui qui donnera l'autorisation d'atterrir à Agalega. Alors, ça ne veut pas dire, cependant, que Maurice perd sa souveraineté sur Agalega.
Si sous la pression indienne, Maurice a refusé de signer l'accord sur la route de la soie et abandonné le projet de construction du port de pêche par les Chinois à Port-Louis, elle cherche à maintenir de bonnes relations avec Pékin. En janvier dernier, Maurice était devenu le premier pays africain à signer un accord de libre-échange avec la Chine. Effectif depuis janvier dernier, les Indiens se sont dépêchés pour approuver un accord semblable 3 mois plus tard. Maurice pourra-t-elle résister pendant longtemps à ce jeu d'influence entre deux géants asiatiques? Pour Jean-Claude Delestrac, la question ne se pose plus.
Parce que maintenant, nous avons choisi notre camp. En acceptant l'installation d'une base, d'un logistic hub ou de militaires indiens sur notre sol, en mettant notre service de renseignement sous la supervision d'un militaire indien, nos gardes-côtes sous le commandement des Indiens, nous avons évidemment, par rapport aux Chinois, choisi notre camp.
Maurice, les Seychelles et Madagascar occupent une place stratégique dans cette partie du monde, avec des zones économiques riches et immenses dont elles en tirent que très peu de bénéfices. Des zones où tous les grands de ce monde cherchent un ancrage, d'une part en raison des routes maritimes et de l'autre de l'expansionnisme chinois. La Commission de l'Océan Indien, dont le siège se trouve à Maurice, sent depuis un moment que les eaux de l'Océan Indien s'agitent davantage. Cette organisation intergouvernementale regroupe 5 îles de la région, Madagascar, Maurice, La Réunion, les Seychelles et l'Union des Comores. Créée en 1984, elle est convoitée par les grandes puissances aujourd'hui. La Chine y a un statut d'observateur déjà depuis 2016 et l'Inde et le Japon depuis l'année dernière. D'autres acteurs lointains à la région frappent aux portes de la COI comme la Russie. La COI est consciente des grandes manœuvres qui ont commencé dans l'Indo-Pacifique et dans cette partie de l'océan Indien. L'organisation a mené des réflexions sur l'Indo-Pacifique. Craint-elle que ses membres des petits États subissent la pression des grandes puissances? La réponse du secrétaire général.
Alors, je ne dis pas que ça ne les inquiète pas, c'est toujours un souci. Mais je pense qu'il n'y a pas matière non plus à s'inquiéter plus que de raison, puisque le multilatéralisme en réseau, dont la COI pourrait être un acteur dans la zone, permettra de dépasser un certain nombre de difficultés.
Trois puissances historiques ont leur point d'appui dans la région. Elles sont la France, à travers les forces armées dans la zone du sud de l'océan Indien, puis les États-Unis et les Britanniques, présents sur la base navale de Diego Garcia. Les puissances émergentes cherchent à s'y faire une place. Pour l'heure, les jeux sont encore ouverts. Le chercheur australien Samuel Bashfield.
Dans l'océan Indien, il n'y a pas un pays dominant, donc vous avez ce que nous appelons la multipolarité et aucun pays ne peut dominer cette région.
De nouveaux enjeux géopolitiques se dessinent dans cette partie de l'océan Indien, théâtre secondaire d'un monde en recomposition.
Agalega, l'empreinte militaire indienne s'accentue à Maurice. Un grand reportage d'Abdullah Erali, réalisation Pauline Leduc.